Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous nous approchons de toi avec tellement de joie, mais en même temps tellement de désir de t'entendre. Seigneur, nous savons que tes paroles sont les paroles de la vie. Et nous savons que c'est toi qui peux nous donner ce pain qui nous fortifie pour la marche. C'est toi qui peux nous ouvrir les yeux. C'est toi qui peux nous guider, nous inspirer, nous éclairer. Alors Seigneur, en ces instants, nous voulons vraiment te demander que ton Esprit Saint de lumière et de vie règne. Et que Seigneur, ta voix se fasse entendre dans nos cœurs. Nous en avons tellement besoin. Viens disposer nos cœurs à te recevoir. Viens disposer nos oreilles. Viens, Seigneur, ouvrir nos yeux, enlever les masques et les obstacles qu'il y a dans nos intelligences, afin que nous puissions pleinement comprendre ce que tu veux nous dire. Nous te remercions pour ta présence, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ta grâce qui agit pleinement au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, mes petits choux, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Vous étiez triste, oui. Vous aimez bien terminer le culte après-midi. C'est bien, c'est comme ça qu'on doit être. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. N'allez pas chercher au fond de la Bible, c'est au début. Genèse chapitre 5, pour commencer, on va lire deux versets dans Genèse. Le premier, Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Genèse 5, versets 21 à 24. Pour commencer, voici ce qui est écrit. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. Amen. Et le deuxième texte dans Genèse chapitre 6, le chapitre qui suit, et là, nous allons lire le verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9. Il est écrit, « Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. » Il eut trois fils, Sem, Cham et Japhet. Amen. Le texte de Genèse, chapitre 5, c'est un texte qui commence par Adam et qui se termine par Noé. C'est en réalité une généalogie. Et dans cette généalogie, on nous présente la descendance d'Adam qui va conduire à Noé, et donc on nous donne tout un ensemble de personnes qui ont été les descendants d'Adam. Adam eut pour fils, un tel eut pour fils, un tel eut pour fils, un tel eut pour fils, jusque Noé, et d'ailleurs ça s'appelle le livre de l'histoire de la famille d'Adam. Donc c'est la famille d'Adam, les descendants d'Adam. Et alors que l'auteur est en train de présenter successivement tous les descendants d'Adam jusque Noé, tout à coup, le texte s'arrête, fait une sorte de pause pour nous donner une information sur un certain monsieur qui s'appelle Enoch. Voilà qu'il est en train de citer des noms et puis il s'arrête. Il nous parle d'Enoch et il nous dit « Enoch vivait sous le regard de Dieu ». Et le texte nous dit que sa vie était tellement agréable à Dieu que ce fameux Enoch, eh bien, n'a pas vu la mort parce qu'il a tout de suite était pris auprès de Dieu, il n'a pas connu la mort. Ce qui est très particulier, c'est que, en réalité, dans ce petit livre des fils d'Adam vers Noé, on nous présente chacun en nous donnant son nom, en nous donnant les enfants qu'il a eus, en nous donnant l'âge qu'il avait lorsqu'il a eu ses enfants, et pour, en nous disant l'âge à laquelle il est mort. Mais arrivé à Enoch, on nous dit qu'il a eu des enfants, on nous dit à quel âge il a eu ses enfants, on nous dit la durée de sa vie, mais on ne nous dit pas le moment de sa mort, parce qu'il n'est pas mort, il n'a pas connu la mort, parce que nous dit la Bible, il vivait sous le regard de Dieu. Et un petit peu plus loin, alors que nous continuons la lecture, nous arrivons à Noé, dans Genèse chapitre 6, et là on nous parle de Noé en nous disant, voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Et c'est ça le thème de ce matin, vivre sous le regard de Dieu. Vivre sous le regard de Dieu. Et pour ces deux hommes-là, ce qui est particulier, c'est que ce que le texte veut nous montrer, c'est qu'ils vivaient sous le regard de Dieu au milieu de leurs contemporains qui, eux, étaient dans la pleine indifférence de Dieu. Et c'était des gens qui étaient particuliers parce qu'ils vivaient dans un contexte où tout le monde se fichait éperdument de Dieu, de sa volonté, de sa personne, etc. Mais ces deux hommes-là, ils vivaient sous le regard de Dieu. Et pour tous les deux, ils ont eu une destinée particulière parce que leur mode de vie, qui était tellement agréable à Dieu, a amené que chacun des deux a eu une vie un peu spéciale. Enoch, nous venons de le dire, il n'a pas connu la mort. Il a été pris auprès de Dieu et l'expression est forte. Dieu le prit près de lui. Cet homme était tellement précieux, tellement valeureux, tellement précieux pour Dieu que Dieu a dit « Non, je ne vais pas le laisser continuer à vivre sur terre, je le prends près de moi. » Ça, c'est la première destinée. Enoch vivait sous le regard de Dieu, Dieu le prend près de lui. Et Noé aussi, il a une destinée particulière parce que Dieu estime que Noé ne doit pas mourir avec tous les autres et Dieu va trouver une solution pour que Noé puisse lui échapper au déluge. Il lui dit « Voilà, fais un bateau, rentre dedans, mets les animaux et va-t'en. » Donc ces deux hommes, on nous fait la description de leur mode de vie. Ils vivaient sous le regard de Dieu et on nous montre que le fait qu'ils vivaient sous le regard de Dieu a eu un impact puisqu'ils n'ont pas vécu comme tous les autres. Dieu leur a réservé une vie qui n'était pas semblable à celle des autres. Alors que les hommes, les femmes de ce temps-là vivaient dans la complète indifférence du Dieu de l'univers, du Dieu créateur, ces gens-là conduisaient leur vie sous le regard de Dieu. Et pour nous en Jésus-Christ, en réalité, ce n'est pas nous qui avons levé les yeux vers Dieu, ce n'est pas nous qui nous sommes dit « tiens, nous allons regarder, prendre compte de Dieu dans notre vie ». C'est le contraire, c'est Dieu qui a déposé son regard sur nous en Jésus. Son regard de paix, son regard d'amour, son regard de compassion, son regard de pardon, son regard de grâce, s'est posé sur nous en Jésus. Toute la faveur de Dieu, tout l'amour de Dieu, toute la grâce de Dieu s'est posée sur nous de telle sorte que, devenant ses enfants, Dieu pose son regard sur nous. Il y a le regard de Dieu sur ta vie, le regard de Dieu sur ton existence, sur ton passé, le regard de Dieu sur ton futur. Dieu pose un regard sur nous. Alors, il est vrai que, on pourrait dire que Dieu regarde tout l'univers. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Donc Dieu regarde tout l'univers, mais il regarde en particulier ses enfants. C'est un petit peu comme des parents qui vont au parc avec leurs enfants. En été, ils amènent leurs enfants au parc. Les enfants jouent dans les installations qu'il y a là. Ben, évidemment que les parents qui sont assis sur le banc, ils voient tous les enfants qui sont en train de jouer, mais ils surveillent les leurs. Ils surveillent les leurs. Ils prennent des collations pour leurs enfants à eux, pas pour tous les autres. C'est un peu la même chose avec Dieu. Dieu voit tout l'univers, il voit tous les humains, mais il pose un regard particulier, un regard bienveillant, un regard attentif sur ses enfants à lui. Alors, puisque Dieu nous regarde, puisque c'est ça que ça veut dire, puisque Dieu nous regarde, nous avons à adapter notre vie à ce regard de Dieu qui est sur nous. Qu'est-ce que c'est pour nous vivre sous le regard de Dieu ? Vivre sous le regard de Dieu, premièrement, c'est un positionnement. Nous allons dire lequel. Vivre sous le regard de Dieu, c'est une attitude intérieure. Nous allons dire laquelle. Vivre sous le regard de Dieu, c'est un certain carburant, c'est un certain leitmotiv, C'est une certaine vision du monde aussi, et c'est un certain don. 6 points. Premièrement, vivre sur le regard de Dieu, c'est un certain positionnement. C'est-à-dire, c'est être à un certain endroit dans tout l'univers. C'est être à un endroit et pas à un autre. Et cet endroit, le positionnement de celui qui vit sous le regard de Dieu, c'est sa présence. C'est la présence de Dieu. Le fait que nous ayons ce regard de Dieu sur nous, que nous soyons des enfants de Dieu, adoptés, aimés, choyés, valorisés par Dieu, ça a pour conséquence que nous avons à chercher une position, et cette position, c'est sa présence. Sa présence. Et c'est le chant que nous avons chanté ce matin, « Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. » Celui qui sait que Dieu le regarde, celui qui sait que Dieu est proche, que Dieu est là, ce qu'il va chercher, comme David, et David va le dire, le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il soupire après la présence de Dieu. Un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs, je désire habiter dans ta maison. La recherche constante de la présence de Dieu. David va dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Tu es mon souverain bien, ce que j'ai de plus précieux sur cette terre, c'est ta présence, c'est ma relation avec toi. Celui qui sait que le regard de Dieu est sur lui, il va commencer à considérer ce Dieu qu'il aime comme étant mais la chose la plus importante dans son existence, la chose la plus essentielle. Le psaume 27, il dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Je cherche ta face au Éternel. C'est ça le positionnement de celui qui sait que Dieu le regarde, c'est de chercher sa présence. Je veux être près de toi, Seigneur. Je veux t'entendre, Seigneur. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux grandir avec toi, Seigneur. Je veux te découvrir. Je veux être rempli de toi, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir. C'est la prière que certains hommes de la Bible ont fait. Seigneur, je veux te voir. Vivre sous le regard de Dieu, ça implique un éveil à sa présence. C'est vraiment le mot, c'est un éveil à sa présence, parce qu'en réalité, il est là. Nous ne devons pas le chercher, ou nous ne devons pas faire des pieds et des mains pour atteindre sa présence. Il est présent. Mais il faut que nous puissions nous éveiller à sa présence. Le regard de Dieu est sur nous, oui, mais nous avons à prendre conscience de ce regard de Dieu qui est sur nous, de cette présence de Dieu en nous. Il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et aux dernières nouvelles, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc Dieu habite en nous. Dieu habite en nous. Et pourtant, nous vivons souvent du lundi au vendredi, comme si il n'était pas là. Pourtant, il habite en toi. Tel que tu es là, assis, l'Esprit Saint de Dieu est en toi, assis, à l'intérieur de toi. Et il faut que nous puissions, si nous prenons conscience de ce regard de Dieu, nous éveiller à cette présence. C'est-à-dire que puisque l'Esprit est en moi, il y a tout un ensemble de choses qui vont s'adapter dans ma vie. Ça veut dire que je vais mettre en place des choses pour le laisser s'exprimer, pour le laisser agir en moi, pour l'entendre, pour le recevoir, pour... La présence de Dieu en nous, c'est ce que nous avons à rechercher. Et encore une fois, David va dire, c'est son bien suprême, être près de toi, être dans ta maison, être avec toi, te connaître, te voir. Et d'autant plus qu'il y a des bénéfices à la présence de Dieu. Le fait que Dieu soit présent, ça a des bénéfices pour nous. Ce n'est pas un détail. Alors Dieu est présent dans l'Assemblée des Saints, il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc Dieu est présent, là. Donc ça veut dire que si je cherche la présence de Dieu, je vais chercher à être dans l'Assemblée des Saints, là où Dieu dit qu'il envoie sa bénédiction, là où Dieu dit qu'il est présent. Dieu est présent dans sa parole. Je vais chercher à connaître sa parole, à le découvrir dans sa parole. Encore une fois, il y a une manière de lire la Bible. Lire la Bible comme un roman ou lire la Bible comme un livre historique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La Bible se lit comme étant une... La Bible, c'est un petit peu comme un enfant qui aurait un parent qui s'en va qui s'en va très loin ou alors et qui lui laisse son grenier. Voilà, il y a le grenier dans la maison. Et alors, l'enfant se dit, mais moi, je veux vraiment connaître mon parent, il n'est pas là, etc., etc. Je vais aller dans le grenier et je vais aller dans toutes les archives, je vais regarder ses photos d'enfance, je vais regarder ses bulletins, je vais regarder les photos de ses fiançailles, les photos de son mariage. Hein, faites-le, hein, vous pouvez faire ça, hein, je vous autorise. Donc, j'ai envie de le connaître, je vais aller voir dans son journal intime. C'est ça, la Bible. C'est un livre dans lequel on cherche Dieu. C'est un livre qui nous exprime qui est Dieu, qui nous parle de Dieu, qui nous fait le découvrir. Et évidemment, lorsque nous la lisons comme ça, eh bien, il y a tout qui change, parce que ce n'est pas seulement « Oui, bon, alors, qu'est-ce qu'il raconte ?» Non, c'est « Ah, attention, là, je vois un caractère de Dieu. Je vois un attribut de Dieu. Là, je vois comment il interagit avec les hommes. Là, je vois sa volonté. Là, je vois son cœur. Là, je vois la recherche de la présence de Dieu dans sa parole. Dieu est présent dans les sacrements, dans les ordonnances, dans la Sainte-Cène, dans le baptême. Dieu est présent dans notre chambre chaque fois que nous cherchons sa face, puisque Jésus dit « Ton Père te voit. » Une fois que tu es dans le secret de ta chambre, « Ton Père te voit. » L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est ça le cœur de celui qui vit sous le regard de Dieu, la présence de Dieu, être près de Dieu. Et vous connaissez ce chant que j'aime bien, « Mon Dieu plus près de toi, mon Dieu plus près de toi, c'est le vœu de ma foi, plus près de toi. » Ça devrait être ça notre prière. Hein? On devrait arriver le dimanche matin en disant « Plus près de Dieu, plus de lui, plus de sa présence, plus de sa voix, plus de son écoute. » Vous devriez m'empêcher d'arrêter de prêcher. Vous devriez dire « Continue, on a envie que tu dises d'autres choses. » Vous devriez attacher Gino et Jean-Pierre et Benoît pour qu'ils enseignent la parole de Dieu. Parce que celui qui vit sous le regard de Dieu, il cherche sa présence. Il cherche à être là où Dieu est. Être là où Dieu est. Et ce n'est pas un truc qu'on ne connaît pas. On connaît ça. Hein? On aime bien être avec les gens qu'on aime. On aime bien être avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses copains. On aime bien ça. Mais ce que nous avons de plus précieux, c'est la présence de Dieu. Alors, dans la présence de Dieu, il y a des bénéfices. La direction, quand je suis dans la présence de Dieu, Dieu me dirige, me montre le chemin à suivre. La direction, combien de fois est-ce que nous ne sommes pas pleinement indécis dans notre vie? Est-ce que je dois aller là-bas? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois... La direction, Dieu dirige les pas de ses enfants. Dans la présence de Dieu, nous trouvons la consolation. La consolation parce qu'il y a, certaines blessures, certaines craintes, certaines choses dans notre cœur que Dieu seul connaît. Très souvent, vous savez, inconsciemment, les gens qui souffrent, et on souffre tous à divers niveaux, les gens qui souffrent voudraient que les autres puissent les comprendre. Et il faut. Il faut qu'on puisse écouter, il faut qu'on puisse comprendre. Mais il y a parfois de ces blessures, de ces souffrances qui sont tellement incrustées, tellement difficiles à expliquer, que les autres ne les comprennent pas. Dans la présence de Dieu, nous trouvons la consolation. Nous trouvons la consolation. Les grands mystiques de la... Alors mystique, c'est pas un mot... Ça n'a rien de péjoratif, un mystique. Mystique, c'est quelqu'un qui cherche la présence de Dieu. Par exemple, Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, tous ces gens-là, ils expliquent que lorsqu'ils étaient dans la présence de Dieu, c'est comme si toutes leurs blessures s'étaient en allées en un seul instant. Alors, ce n'est pas des gens qui priaient 10 minutes comme nous. Hein. Ils y passaient leur journée, d'accord. Mais ça, c'était un bénéfice. Et David va dire la même chose. Il était fait de la même composition que nous. Dans la présence de Dieu, nous trouvons la consolation. La consolation. Dans la présence de Dieu, nous trouvons l'intimité, la joie, la paix, la délivrance. Et cette présence de Dieu, cette recherche de la présence de Dieu, ça va nous amener à prier sans cesse. Alors, quand je commence à prier sans cesse, ma vie devient une vie priante. Une vie priante. C'est-à-dire que ce n'est pas que j'ai des moments où je prie, ma vie est une prière. C'est ça notre appel. Avoir une vie qui soit une prière. Hein, j'entendais un témoignage d'une maman, on expliquait une maman qui cuisinait, et alors on disait, mais qu'est-ce qu'elle a tout le temps quand elle cuisine, elle n'arrête pas de chuchoter. C'est désagréable, hein, finalement, peut-être qu'elle a Alzheimer, Hein, peut-être que, faudrait peut-être qu'on l'interne ou quoi. Et alors, on lui a posé la question. Alors, elle dit, mais non, pendant que je mets les patates, je tourne et je prie, je chuchote et je dis, Seigneur, que mes enfants, que mon mari, en mangeant ça, qu'ils soient réjouis, qu'ils aient de la force pour lire ta parole, qu'ils t'aiment davantage. Qu'ils... C'est ça notre vie. Même en cuisinant, on peut prier. Seigneur, que cette nourriture leur fasse du bien, que ça les encourage, qu'ils aient la force d'étudier à l'école. C'est ça notre existence. La présence de Dieu, ce n'est pas juste un endroit de temps en temps. Ça peut être toute notre vie. Premièrement, c'est un positionnement, vivre dans la présence de Dieu. Mon Dieu, plus près de toi, c'est le vœu de ma foi. Deuxièmement, la recherche de la conscience, le fait de savoir que nous avons le regard de Dieu sur nous, ça va impliquer une attitude intérieure. Il y a une attitude qui va se créer en nous quand on sait que le regard de Dieu est sur nous. Alors, cette attitude-là, c'est un gros mot dans les églises. On ne peut plus en parler. Et quand on en parle, on est viré. Bon, mais moi, je m'en fiche. Donc, j'en parle quand même. Ça s'appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. L'attitude que l'on a lorsque l'on sait que le regard de Dieu est sur nous, ça s'appelle la crainte de Dieu. Alors c'est un mot qu'on n'aime pas parce que tout de suite on dit « Ouh là là, la crainte de Dieu, on va nous écraser, on va nous mettre au pilori ». Non, la crainte de Dieu, c'est la conscience du regard de Dieu sur moi. La conscience du regard continuel de Dieu sur moi. Je suis conscient que Dieu me regarde. Je suis conscient que Dieu me voit. Je suis conscient que Dieu m'entend. Mes pensées, mes paroles, mes actions sont sous le regard de Dieu. La crainte de Dieu, c'est répondre à la question « Qui je suis quand personne ne me voit ?» Puisqu'évidemment, quand les autres nous voient, ben, nous sommes dans la volonté de leur plaire, de leur montrer. Mais qui est-ce que je suis lorsque personne ne me voit ? Quand il n'y a personne pour me regarder, pour me dire quoi que ce soit. Qui est-ce que je suis dans l'intimité de mon cœur ? Parce que Dieu voit ce qu'il y a dans mon cœur. Peut-être que les autres ne le savent pas, mais Dieu le voit. Cette conscience du regard de Dieu sur nous, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Et Ésaïe 66, 2 dit « Toutes ces choses, ma main les a faites, c'est Dieu qui parle, et toutes ont reçu l'existence et l'éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Cette attitude, je ne veux pas pécher. Et David disait, je sers ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est cette attitude-là que nous avons, c'est que lorsque j'agis, lorsque je parle, lorsque je vis, je sais que Dieu me voit et donc je ne me permets pas de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, parce que même si personne ne me voit, Dieu, lui, me voit. Alors vous savez bien, les pensées engendrent des paroles, engendrent des actions. Celui qui vit sous le regard de Dieu, il commence déjà à consacrer ses propres pensées. Ses propres pensées. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des choses, si nous les pensons, un jour nous les dirons. Et quand quelqu'un dit une méchanceté ou une parole blessante, le pire, ce n'est pas que la personne le dise, c'est qu'elle le pense. C'est ça le problème. C'est qu'elle le pense. Et alors l'apôtre, et on en a parlé beaucoup au camp de famille, va nous dire « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Des pensées qui sont sous le regard de Dieu. Je ne me permets même pas de penser certaines choses parce que je sais que, oups là, Dieu me regarde. Et encore pire, dans mes paroles, je ne me permets pas de dire n'importe quoi parce que je sais que, attention, Dieu me regarde, Dieu me voit. De mentir, par exemple, c'est un mensonge, ben oui, celui à qui je mens, il ne sait pas que je mens. Mais Dieu sait que je mens. Et ce regard de Dieu va avoir un impact sur notre attitude. David disait, dans le psaume 16 qu'on a lu, « J'ai constamment l'Éternel devant ma face. J'ai constamment l'Éternel devant ma face. » Ça change notre marche, parce que nous agissons et nous savons qu'il est présent. Et vous savez que Dieu est aussi présent par les anges qu'il envoie autour de nous. Les anges qu'il envoie pour nous protéger, pour nous garder. Et vous savez qu'il y a certaines attitudes qui font fuir les anges. Les anges, c'est pas, ils sont programmés pour être là dans certaines circonstances. Lorsqu'ils sont dans des situations qui les inconfortent, ils s'en vont. Lorsque nous médisons, lorsque nous mentons, la conscience du regard de Dieu sur nous. Être conscient du regard de Dieu, c'est refuser la désinvolture, la légèreté. La légèreté, il est présent, il est là, il nous voit, il est présent dans le culte, il est présent. On prend conscience que Dieu est là et on agit, on oriente sa vie vis-à-vis de ça. On ne se permet pas tout, on ne se croit pas tout permis. On sait que je dois agir, je dois parler, je dois me comporter en sachant que Dieu me regarde. Troisièmement, vivre sous le regard de Dieu, c'est un carburant. Quel est le carburant de celui qui vit sous le regard de Dieu ? L'amour. L'amour. Celui qui vit sous le regard de Dieu va marcher dans l'amour, pour l'amour, par l'amour. Et donc ce carburant-là, c'est l'amour de Dieu qui est en nous, qui va alimenter notre existence comme un carburant qu'on mettrait dans une voiture. Eh bien, le carburant, il permet au moteur de tourner, il permet que la voiture avance. Et donc celui qui vit sous le regard de Dieu, lorsqu'il agit, lorsqu'il vit, lorsqu'il fait des choses, c'est alimenté, animé par l'amour de Dieu. Deutéronome 6, verset 5 dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, on dit de tout ton pouvoir. » Alors, il y a trois grands aspects à l'amour de Dieu. L'aimer de tout son cœur, de toute son âme, et de toute sa force. Alors, de tout son cœur, quand j'aime Dieu de tout mon cœur, ça veut dire que j'ai le désir d'accomplir sa volonté. Le désir d'accomplir sa volonté. Dans nos cœurs, nous voulons accomplir sa volonté. Comme un fiancé va vouloir accomplir la volonté de sa fiancée pour lui plaire, pour lui faire plaisir, il va faire plein de choses. De la même manière, nous sommes appelés en tant que ses enfants, en tant qu'enfants qui l'aimons, à chercher à lui plaire, chercher à faire sa volonté, chercher à le réjouir. Vous savez qu'il y a des actes qui réjouissent le cœur de Dieu. Il y a un texte dans la Bible qui dit « L'Éternel dansera de joie pour toi ». C'est écrit, hein ?« L'Éternel dansera de joie pour toi ». Que ce ne serait pas fantastique que nous ayons des vies sur lesquelles Dieu danse. Vous imaginez ça ? C'est-à-dire que Dieu est tellement content de ta vie qu'il danse. C'est écrit dans la Bible, hein, vous me regardez comme si j'inventais, c'est vraiment écrit. Hein. L'Éternel dansera de joie pour toi. Quel bonheur de se dire, je conduis ma vie, mais je sais que Dieu danse de joie pour moi. Et ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible, ce n'est pas juste pour certains. Nous pouvons avoir des vies qui sont sous le regard de Dieu, qui lui sont tellement agréables, que finalement Dieu dit, écoute, Yvan, quand je te vois, je n'arrive pas à rester assis sur mon trône. Il faut que je me lève et voilà Dieu qui se met à danser, qui se met à swinguer, parce que Yvan lui plaît. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Vous savez c'est des hommes comme ça ont existé dans la Bible. Abraham, par exemple, Dieu va faire des choses pour Abraham qui ne seraient pas pour quelqu'un d'autre quand il veut détruire Sodome et Gomorre. Voilà qu'Abraham prie et Dieu va même dire « Cacherai-je à Abraham ce que j'ai prévu de faire ?» C'est-à-dire qu'Abraham lui plaisait tellement qu'il se dit « Je ne peux même pas garder ça pour moi, il faut que je le dise à Abraham. » Et finalement, Abraham va commencer à négocier avec Dieu parce qu'il lui plaisait. « L'Éternel dansera de joie pour toi. » Donc l'amour de Dieu, c'est de tout mon cœur. Ça va nous amener à renoncer à notre volonté pour chercher ce qui le réjouit, pour chercher ce qui est conforme à sa volonté, chercher à lui plaire. Dieu devient l'objet de nos désirs. C'est ça aimer de tout son cœur. Dieu devient l'objet de mes désirs. Et en réalité, à un moment donné, ma volonté commence à devenir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu et la mienne ne font plus qu'une. Je veux ce que Dieu veut. Et c'est comme ça qu'il est écrit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Parce que celui qui considère la volonté de Dieu comme étant ses délices, qui considère Dieu comme étant son délice, ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire que Dieu est mon délice, je préfère être plus près de Dieu que de manger une tarte ou de manger... Celui qui fait l'Éternel ses délices, qui considère Dieu comme étant ses délices, eh bien celui-là, Dieu accomplira les désirs de son cœur, parce que les désirs de son cœur seront les désirs de Dieu. Deuxièmement, de toute ton âme, c'est-à-dire j'ai employé toute son énergie, tous ses talents, toutes ses capacités pour Dieu, de toute mon âme, avec mes émotions, avec ma volonté, avec mes peurs, même avec mes craintes, avec mes aptitudes, avec mon intelligence, de toute mon âme. Et ensuite, de tout ton pouvoir, c'est-à-dire utiliser toutes nos ressources matérielles, notre temps, notre influence, consacrer nos biens à l'usage de Dieu, utiliser son temps pour le royaume de Dieu, de tout ton pouvoir, de tout ce que tu sais faire, avec tout ce que tu as. Aime Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ça, vivre sous le regard de Dieu. J'ai un carburant, c'est j'aime Dieu, et c'est ça qui m'encourage. Un grand philosophe qui s'appelle Maïmonide, non pas un philosophe, un théologien, qui était philosophe aussi, a dit « On ne peut aimer que selon le degré de connaissance que l'on a de l'objet de son amour. Si l'on connaît un peu, on peut aimer un peu. » Et si on connaît beaucoup, on peut aimer beaucoup. Pour aimer Dieu beaucoup, il faut le connaître beaucoup. Quatrièmement, vivre sous le regard de Dieu, c'est un certain leitmotiv. Alors un leitmotiv, c'est quelque chose de motivant, c'est ça. Qui est-ce qui a dit ça? Ah voilà, quelque chose de motivant, c'est ça. La motivation de celui qui vit sous le regard de Dieu, c'est sa gloire. Sa gloire. Alors, Dieu est l'être le plus glorieux. Il est pleinement omniscient. Il est pleinement sage. C'est le grand Dieu, le Dieu grand, le Dieu sage, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui voit tout. C'est le Dieu le plus saint. Il est saint, il n'y a pas de mal en lui, il est juste. Tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait est correct, tout ce qu'il fait est droit. Et les trois grands objectifs de Dieu lorsqu'il agit, c'est premièrement le bonheur de l'homme. Dieu fait des choses pour le bonheur de l'homme. Il est écrit qu'il fait couler la pluie, etc., etc. Il le fait pour la sanctification de ses créatures, c'est-à-dire que pour ses enfants, pour que la terre puisse aller de l'avant, puisse se sanctifier, se rapprocher de lui. Mais la raison la plus importante pour laquelle Dieu fait les choses, la raison même, la motivation de Dieu, c'est sa propre gloire. Dieu agit pour sa propre gloire. Alors la meilleure chose que nous puissions faire, la chose la plus motivante que nous puissions avoir, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. C'est de chercher sa gloire, c'est de vouloir glorifier son nom. La Bible dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Il a dit, il est écrit qu'il nous a sauvés afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous sommes là, nous avons été sauvés pour servir à la louange de sa gloire. Nous sommes des hommes et des femmes appelés à agir pour la gloire de Dieu, pour sa gloire. Alors vous savez que tout humain, tout ce que nous faisons est motivé par quelque chose. Ce n'est pas possible d'agir sans motivation. Il y a toujours une intention qui est derrière ce qu'on fait. Une motivation, quelque chose qu'on aime bien faire ou des choses dans le genre, et bien celui qui vit sous le regard de Dieu, il va chercher à vivre pour sa gloire, vivre pour la gloire de Dieu. Il est tellement glorieux, il est tellement puissant, il est tellement élevé, tellement majestueux, que nous allons dire « Seigneur, tout ce que je fais, je veux le faire pour ta gloire. Je veux le faire pour ta gloire. » Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va nous dire « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Nous pouvons manger pour la gloire de Dieu, nous pouvons boire pour la gloire de Dieu, nous pouvons aller travailler pour la gloire de Dieu, nous pouvons tout faire pour la gloire de Dieu. Il suffit d'être conscient que je le fais pour sa gloire, d'être conscient que son regard est sur moi et que je suis amené à le faire pour sa gloire. Vous savez bien que Mozart signait toutes ses œuvres en mettant SDG, Soli Deo Gloria. C'est-à-dire que même la musique qu'il composait, pour la gloire de Dieu. Quel que soit le travail que nous faisons, on peut le faire pour la gloire de Dieu. Même la vaisselle, même le ménage, pour la gloire de Dieu. Alors, c'est peut-être plus dur, ces choses-là. Mais ça aussi, ça peut être fait pour la gloire de Dieu. Le catéchisme de Westminster, alors le catéchisme de Westminster, c'est un cours pour les nouveaux convertis qui est construit par questions-réponses, en fait. Donc, ils posent des questions, ils mettent la réponse, ils posent la question, ils mettent la réponse. Bon. Et alors, il y a une question qui est dans ce catéchisme-là, et c'est quel est le but principal de la vie de l'homme? Et la réponse dans ce catéchisme, c'est: le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Trouver en lui son bonheur éternel. Lorsque Dieu devient toute notre vie, toute notre existence, notre encouragement, notre volonté, mon bonheur éternel. Et c'est pour ça qu'il va nous prendre. Il va nous prendre pour que nous puissions trouver en lui notre bonheur éternel. Lorsque nous allons aller près de lui, nous allons nous réjouir simplement de le voir, simplement d'être dans sa présence, cet être si majestueux, si glorieux, si grand, si beau. Nous pouvons vivre pour sa gloire. Cinquièmement, vivre sous le regard de Dieu, c'est avoir une certaine vision du monde. Et cette vision du monde, c'est de voir le monde comme étant le fruit du don de Dieu. Il est écrit dans le psaume 145, « Les regards de tous sont tournés vers toi, tous attendent que tu donnes à chacun la nourriture au moment voulu. » Lorsque nous vivons sous le regard de Dieu, nous commençons à considérer tout ce que nous recevons comme étant un don de Dieu. Tous attendent leur nourriture. Si je vis sous le regard de Dieu, je sais que la nourriture que je reçois, elle me vient de Dieu. C'est ce qu'on appelle la providence. La providence, c'est le fait que Dieu pourvoit à nos besoins. La providence est un don de Dieu. Une famille, c'est un don de Dieu. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Quand nous vivons sous le regard de Dieu, nous commençons à recevoir tout comme étant ce que Dieu me donne. La nourriture, les enfants sont une bénédiction. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est écrit ça, hein? Vous n'avez pas l'air convaincu là, mais c'est ce qui est écrit. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ali, enfin. Alors, même les épreuves, nous pouvons les recevoir de la main de Dieu. Nos capacités, nos dons, notre travail, notre réussite, nous pouvons considérer que ça nous vient de Dieu. L'attitude que l'on a lorsqu'on vit sous le regard de Dieu, c'est cette conscience que tout nous vient de Dieu. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est ça. Quand je vis sous le regard de Dieu, je considère que tout ce que j'ai me vient de Dieu. Et je le remercie pour ça. Je considère que rien n'est acquis. Je considère que rien n'a été fait pour mon propre mérite, par ma propre force. Alors oui, j'ai contribué, mais en finalité, je sais que c'est la main de Dieu qui a amené que ces choses viennent à moi. Celui qui vit sous le regard de Dieu va être conscient que c'est Dieu qui dirige ses pas. Même lorsqu'on va aller à un endroit où on va réussir, on va dire, je sais que Seigneur, c'est toi qui m'as dirigé dans ces pas-là. Tout dans notre vie peut être un don de Dieu. Et alors là, évidemment, notre attitude vis-à-vis du don change. Nous vivons dans le contentement. Si je sais que c'est ce que Dieu m'a donné, je vais me dire, il faut que j'en prenne soin, il faut que je sois content, il faut que je sois heureux avec ça, parce que ça vient de Dieu. Donc celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, si elle me vient de Dieu, je vais me réjouir de ça. Oh là 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 là. Ouh, c'est difficile ici. Je me disais, c'est le plus beau point, tout le monde va être sur la chaise et tout le monde va prendre son mari et sa femme dans les bras. Non, ils sont tous là. Bon. Ne vous mariez pas les filles, on disait à l'école. Bon. Sixièmement, vivre sous le regard de Dieu, c'est un don. C'est un certain don. Et ce don, c'est l'offrande de notre vie. L'offrande de notre vie. Il est écrit un texte qui dit, c'est pourquoi les chrétiens, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises quotidiennes, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, si elles sont vécues dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. C'est ainsi que les chrétiens consacrent à Dieu le monde lui-même et rendent partout à Dieu, par la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Un culte d'adoration. Alors, qu'est-ce que ce texte est en train de dire? Il est en train de dire que pour le chrétien, en réalité, toute son existence, peut devenir une offrande pour la gloire de Dieu. Il est en train de dire que notre travail séculier, le travail que nous faisons la semaine, nos activités sociales, aller au sport, aller à la musique, etc., etc., nos prières, notre service chrétien, notre vie conjugale, notre vie familiale, nos travaux divers, nos travaux dans la maison, nos travaux intellectuels, nos moments de loisirs même, nos moments de détente, nos épreuves, toutes ces choses-là peuvent devenir, si nous les vivons par l'Esprit de Dieu, une offrande spirituelle agréable à Dieu. Tout ça, tout dans ma vie, même quand je me détends, même ma famille, même aller à l'école, même tout ça, ça peut devenir, si je la porte à l'autel, une offrande agréable à Dieu. Quand c'est vécu dans l'esprit, quand c'est vécu sous le regard de Dieu, ça peut devenir une offrande pour lui. Quelque chose qui lui plaît, quelque chose qui le réjouit, quelque chose sur lequel il peut danser. Et c'est ça la vie chrétienne, notre vie chrétienne, c'est jour après jour, apporter de plus en plus de choses sur l'autel de Dieu. Seigneur, je t'ai apporté certaines choses hier, je sais qu'il en reste. Je sais qu'il en reste. Il y a peut-être aujourd'hui une nouvelle chose que je dois te consacrer, parce que vous savez, malheureusement, dans nos vies, il y a les choses que nous vivons pour nous-mêmes, et puis les choses qu'on vit pour Dieu. Mais l'apôtre va dire, offrez vos corps en sacrifice vivant. Toute notre vie doit être offerte en sacrifice à Dieu. Alors comment ça se passe? Ben lundi, je vais me dire, Seigneur, tu me demandes de te donner mon temps. Allez, je t'apporte un peu plus de mon temps sur ton autel, pour ta gloire. Et puis mardi, je vais me dire, Seigneur, c'est vrai que mon vocabulaire, quand même, n'est pas vraiment à ta gloire. Mais aujourd'hui, je te l'apporte, Seigneur. Voici mon vocabulaire. Et puis mercredi, je vais me dire, Seigneur, c'est vrai que au travail, mon attitude, ben oui, c'est vrai que je la vis, mais je ne suis pas vraiment conforme à ta parole. Et puis je murmure beaucoup. Et puis, allez, Seigneur, mercredi, je t'offre mon attitude au travail. Et puis jeudi, je vais me dire, mais Seigneur, c'est vrai que dans l'église, il y a plein de choses qui se font. Et puis, moi, je me rends compte que je n'offre pas mes capacités à l'église. Et puis, je me dis, Seigneur, je vais t'offrir mes capacités. Je vais t'offrir aussi ce que je sais faire pour la gloire de ton nom dans l'église. Et puis, chaque jour, comme ça, nous apportons un petit peu plus à Dieu. Chaque jour, nous cherchons des nouvelles choses qui ne sont pas encore pleinement consacrées, qui ne sont pas encore pleinement pour sa gloire. Et nous les apportons jour après jour. C'est ça, la vie chrétienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne sommes pas parfaits aujourd'hui, c'est très bien, parce que nous avons le temps. Nous avons le temps, alors pas trop de temps non plus, parce qu'il revient dans la gloire, comme un voleur. Mais nous avons cette progression de nous dire, Seigneur, je sais qu'il y a encore des choses qui doivent être pour ta gloire, qui doivent être amenées sur ton autel. Je les connais et je vais organiser ma vie pour que, petit à petit, toute mon existence puisse devenir un culte d'adoration pour toi. Ça, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux quand Dieu voit ta vie et puis il dit, il y a une bonne odeur quand même, hein? Il y a une bonne odeur. Et ça, c'est possible pour nous. Nous pouvons vivre une vie sur laquelle Dieu dise, c'est une bonne odeur, j'aime beaucoup ça, ça me plaît, ça me donne envie. Dieu nous appelle à vivre sous son regard, à vivre sous son regard. Oui. Comme Enoch a vécu sous le regard de Dieu, comme Noé a vécu sous le regard de Dieu, nous pouvons nous aussi, dans toute notre existence, vivre pour la gloire de Dieu. Nous pouvons lui apporter plus, nous pouvons être une vraie adoration pour lui. Et Michée 6, verset 8 dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Dieu nous appelle à marcher devant lui, à vivre devant lui, à vivre sous son regard, à vivre pour sa gloire, à vivre dans la conscience de sa présence, dans la conscience de son regard. Et alors là, comme Noé, comme Enoch, nous aurons une destinée différente, parce que Dieu va nous réserver des voies qui soient des voies différentes de ceux qui vivent dans l'indifférence de qui il est. Ne soyons pas des hommes et des femmes indifférents de Dieu, mais soyons, vivons sous son regard, en cherchant son approbation. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous tournons vers toi parce que nous savons que c'est toi qui veux nous parler. Et nous savons que tu ne parles jamais pour écraser ton peuple. Tu n'es pas un Dieu tyrannique, tu n'es pas un mercenaire, tu n'es pas un tyran. Au contraire, tu es un Dieu qui nous prend en charge, tu nous prends en main, tu veilles sur nous. Nous voulons te prier, Seigneur, parce que voici le verset que nous avons lu. Tu nous demandes de marcher humblement devant toi. Tu nous demandes de vivre sous ton regard. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à vivre chaque jour un peu plus sous ton regard, à glorifier toujours plus ton nom. Aide-nous à t'apporter toujours des nouvelles parties de notre vie pour qu'elles soient toujours pour ta gloire et que, Seigneur, notre vie puisse devenir un culte d'adoration pour toi. Nous croyons que c'est possible, Seigneur, nos vies de famille, notre travail, nos loisirs, tout cela, nos difficultés, nos temps d'hygiène, Seigneur, tout ce que nous faisons peut être pleinement consacré pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à être des adorateurs en esprit, en vérité. Pas des adorateurs seulement le dimanche, pas seulement pendant 2 heures, mais adorateurs tous les jours de la semaine, adorateurs sans cesse, adorateurs pendant que nous dormons. Adorateur dans nos rencontres, Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous aider à te consacrer davantage nos vies, à vivre davantage sur ton regard. Viens soutenir chacun d'entre nous par ton esprit, viens nous encourager, Seigneur, et viens aussi nous éclairer pour que nous voyons ce que tu nous demandes, pour que nous voyons là où nous devons travailler. Nous savons, Seigneur, que nous sommes sur un chemin de victoire et que cette victoire, nous allons pleinement la vivre dans les jours qui viennent. Béni sois-tu, Père, pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Amen.